Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'animer cette conférence autour de mythes de Frédéric Wiseman. Et je tiens à remercier Arnaud qui m'en a fait la proposition, qui m'a offert cette opportunité. Et donc j'ai une trentaine de minutes pour explorer ce film avec vous. Et comme vous le voyez, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit PowerPoint, c'est mon côté universitaire. Donc, tourné dans une gigantesque entreprise industrielle d'élevage et d'abattage au Colorado, Mythe, sorti en 1976, explore le rapport des hommes aux animaux d'élevage dans l'Amérique moderne. Et pour questionner ce rapport, marqué par l'idée de domination, j'ai choisi trois grands axes, à savoir la représentation de la mort à l'heure de sa mécanisation, l'éclosion d'une esthétique du morcellement et la question du geste face à la parole. Alors pour commencer, j'aimerais étudier avec vous cette question de la mise à mort des animaux à l'heure de sa mécanisation, une mécanisation soulignée par Wiseman par la mise en lumière du travail à la chaîne comme par le refus de la couleur. Donc dans la logique de l'abattoir, le bétail s'apparente à une masse. On peut se souvenir des chiffres hallucinants énumérés par les employés, avec l'un d'entre eux qui affirme « On a abattu 8223 bêtes la semaine dernière. Il n'y a pas d'individualisation des animaux qui sont destinés à devenir des produits. » Et comme vous avez pu le remarquer, Wiseman assume cet effet de masse avec ses choix de cadrage. Ce qui m'a marqué lorsqu'on découvre les vaches dans leurs enclos au début du film, c'est qu'on est quasiment toujours en plongée. Donc, traditionnellement, la plongée au cinéma instaure une sensation de domination, et c'est le cas ici, bien sûr. Mais cela permet également d'avoir une vue d'ensemble pour souligner l'ampleur du troupeau. Il insère même à un moment donné une plongée quasi zénitale, donc à 180 degrés, pour insister sur le grand nombre des bêtes. À cela s'ajoute, dans certains plans, des effets de contre-jour qui ne permettent pas de distinguer les spécificités physiques des vaches. On est vraiment face à une masse dense, indistincte. Et par ailleurs, ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu et revu Mythe, c'est l'organisation froide, millimétrée, méthodique avec laquelle ces animaux sont transformés en viande. Cette structuration du travail au sein de l'abattoir me semble souligner là encore par la composition des plans avec l'importance des lignes droites, horizontales, verticales, les lignes de fuite également. Et donc, qu'il s'agisse des barrières, du carrelage, des tuyaux ou encore des rails de machines, tout concourt à renforcer les effets de géométrie. Les corps des animaux, avec leur forme organique, sont quant à eux découpés, restructurés pour devenir parfaitement régulier. Vous vous souvenez peut-être à la fin du film ce steak tout à fait rond et tout à fait géométrique. Et la mise à mort industrielle est également soulignée par les effets de sérialité, à savoir de mise en série de différents éléments. On peut penser bien sûr à l'effet de cycle créé par la structure même du film qui fait se succéder les vaches et les moutons transformés en produits alimentaires selon les mêmes étapes. Mais cet effet de sérialité est également frappant dans la façon dont se présentaient les carcasses de bœufs. Alors, vous avez peut-être pensé au bœuf écorché de Rembrandt, donc qui est un tableau de 1655 qui s'inscrit dans toute une tradition picturale nordique du XVIe avec le thème de l'animal écorché et qui a inspiré plusieurs artistes du XXe, de Chaim Soutin à Francis Bacon, au point de devenir un motif iconographique. Toutefois, si dans son tableau, Rembrandt s'intéresse à une seule et unique carcasse pour travailler au mieux les effets de texture, des entrailles et de la chair, Wiseman travaille davantage la mise en série des carcasses pour insister sur cette mécanisation de la mise à mort des animaux. C'est le cas dans ce plan, par exemple, mais il y en a plusieurs qui se succèdent tout au long du film. Mais ce plan m'intéressait parce qu'il est également structuré par des effets de symétrie, donc symétrie des carcasses équidistantes les unes des autres, mais symétrie également des éléments de décor avec les aplats de noir en haut et en bas du cadre, et cette ligne, vous voyez cette ligne de démarcation sur le mur qui passe pile au milieu des carcasses. À cela s'ajoute le refus de la couleur. Lorsque je lui ai demandé pourquoi avoir choisi le noir et blanc pour Mythe, Frédéric Wiseman m'a répondu « parce que j'aime l'esthétique du noir et blanc, soit ». Mais il a également rajouté « la première fois que j'ai utilisé la couleur, c'est avec The Store, film sur un grand magasin, parce que je voulais mettre en valeur la couleur des vêtements ». En fait, cela se justifiait par l'histoire que je voulais raconter. Mais dans Mythe, je ne voulais pas particulièrement mettre en valeur le sang. Fin de citation. Alors je précise, ne pas mettre en valeur le sang ne signifie pas minimiser la souffrance des bêtes. Si le bétail est essentiellement présenté comme une masse, Frédéric Wiseman choisit de singulariser certaines vaches en gros plan, c'est-à-dire avec des plans uniquement sur leur tête, juste avant leur mise à mort, souvenez-vous dans ce virage, ce qui crée une certaine empathie. Et leur mise à mort est d'ailleurs filmée de façon frontale, elle n'est pas du tout aseptisée. S'il y a refus de la couleur, ce n'est donc pas pour lénifier la brutalité du processus, mais bien pour insister sur la dimension industrielle de cette mise à mort. Alors certains critiques ont pu voir dans cette présentation de la mise à mort en série un écho aux chambres à gaz, écho renforcé dès l'ouverture du film, avec la typographie du titre qui rappelle une croix gammée, notamment au niveau du T de Mythe. Donc lorsque je lui ai posé la question, Frédéric Wiseman a affirmé qu'il avait choisi cette typographie non pas pour la croix gammée, mais pour rappeler les marques de fer rouge sur le bétail. Alors, s'il est important de mettre en lumière la parole des artistes, je pense qu'il ne faut pas non plus s'empêcher d'ouvrir d'autres pistes interprétatives, d'autant que certains documentaires sur les abattoirs, comme « Le sang des bêtes » de Franju, sorti en 1949, ont pu jouer sur cette métaphore des camps de concentration des chambres à gaz. Quoi qu'il en soit, les typographies des films de Frédéric Wiseman sont souvent choisies avec attention. Et cela m'a rappelé que dans la masterclass qu'il a donnée ici même, à la fin du mois de septembre, il nous avait parlé de la typographie de welfare, très élégante, qui venait contraster avec la misère dans laquelle étaient plongées les personnes qu'il filmait. Cette plongée dans la mise à mort industrielle du bétail est soutenue, et c'est mon deuxième point, par une esthétique du morcellement, esthétique très présente dans Mythe. Tout au long du film, nous voyons comment le corps des animaux est mis en pièces pour être transformé en produits alimentaires. Or, ce que je trouve assez marquant, c'est que ce morcellement vient contaminer la représentation des ouvriers, des machines et des objets au sein de l'abattoir. Alors, comment est-ce que ça se traduit ? Eh bien, essentiellement par un travail sur des gros plans, qu'il s'agisse de gros plans sur les mains ou les pieds des ouvriers, ou encore d'inserts sur leurs bottes entassées, sur leurs outils ou sur les machines. Je vous ai mis quelques captures d'écran. À cela s'ajoute un montage rapide qui fait écho aux gestes des ouvriers débitant les carcasses. Je précise que Wiseman, qui réalise lui-même le montage de ses films et qui y porte une attention toute particulière, adapte ici le rythme du montage aux gestes qu'il représente. Si le montage se fait plus haché pour accompagner les gestes secs et répétitifs des ouvriers qui découpent les carcasses, le cinéaste choisit à l'inverse de garder un plan très long, de près d'une minute trente, pour présenter un employé en train de tondre un mouton. Une façon, cette fois-ci, de souligner le geste continu de la tonte. Et cette esthétique du morcellement vient d'ailleurs, il me semble, renforcer l'atmosphère étouffante dans laquelle baigne le film. À ce sujet, la séquence d'ouverture est assez intéressante. Si Myth s'ouvre sur la vision bucolique de bisons paissant au milieu d'une plaine, cette image de la wilderness américaine est très vite brisée par l'irruption des hommes et l'apparition de vaches parquées dans des enclos. À la douce ligne d'horizon des premiers plans se substituent donc les lignes franches des barrières derrière lesquelles s'entasse le bétail. À mesure que l'on pénètre dans l'abattoir, les plans se font de plus en plus resserrés. Et donc, ouvrir son film sur un plan paisible, de nature dite sauvage, avec le ciel qui occupe la moitié de l'écran, vient créer un contraste d'autant plus brutal avec l'atmosphère étouffante de l'abattoir qui s'impose peu à peu. À propos de morcellement, le film lui-même est morcelé entre deux espaces, l'espace des ouvriers et l'espace des cols blancs, dans les bureaux, c'est mon troisième point. Et donc si ce film est structuré sur une dualité, cette dualité se joue donc moins entre les animaux et les ouvriers qui les abattent qu'entre les ouvriers et les cols blancs des bureaux. Ce décalage entre ces deux espaces est souligné par deux esthétiques très marquées. D'un côté, les ouvriers anonymisés et de l'autre, les cols blancs singularisés. Alors l'anonymat des ouvriers repose sur plusieurs facteurs. Au-delà du fait que Wiseman favorise les plans de groupe, ils sont souvent présentés de dos ou de trois quarts dos avec le visage caché par leur casque. Surtout, on n'entend quasiment jamais leur voix. C'est donc d'ailleurs, comme disait Arnaud, Myth, c'est vraiment un des films de Wiseman qui repose peut-être le moins sur la parole. Et donc c'est un petit peu comme si en filmant les animaux, il adaptait son langage cinématographique et il vient minimiser les longues conversations qui ponctuent sa filmographie. Et même lorsqu'on voit des employés qui guident le troupeau, ils s'expriment par onomatopée et leur voix est couverte par le meuglement des animaux, des vaches. Les ouvriers se distinguent donc essentiellement par les gestes répétitifs qu'ils effectuent. S'il y a peu de gros plans sur leur visage, il y a par contre beaucoup de gros plans sur leurs mains pour souligner l'importance du geste. À l'inverse, les cols blancs sont singularisés. Ils sont filmés en gros plan, de face ou de trois quarts face, avec cette fois une courte profondeur de champ pour les détacher du décor et les mettre d'autant plus en valeur. Présentés en réunion ou au téléphone, ils sont généralement assis, ne bougent pas beaucoup et se distinguent quant à eux par leurs paroles. Le travail sur la profondeur de champ, à savoir la zone de netteté de l'image, plus ou moins étendue, est assez symbolique. Si la courte profondeur de champ dans les plans avec les cols blancs vient flouter l'arrière-plan et renforce cet effet de déconnexion, à l'inverse, la profondeur de champ plus marquée dans les plans sur les ouvriers les inscrit pleinement dans le décor. Ces derniers se retrouvent plongés au milieu des carcasses et des machines et s'apparentent ainsi à de simples pièces d'une mécanique qui les dépasse. Alors, petite parenthèse, certes, à un moment donné, c'est au moment du repas dans la cantine, il y a une série de gros plans sur les ouvriers, mais ce sont des gros plans si nombreux et si rapides qu'ils servent moins à les individualiser qu'à souligner l'épuisement sur leur visage. En plus des choix de cadrage, ce décalage entre les deux groupes est renforcé par des atmosphères sonores très contrastées. Donc, d'un côté, l'ambiance sonore très dense et oppressante de l'abattoir, avec le bruit continu des machines, et de l'autre, l'ambiance des bureaux plus calme, rythmée par les conversations téléphoniques. Alors, je tiens à remarquer quand même que si les cols blancs détiennent le monopole de la parole, vous aurez remarqué qu'elle n'en est pas moins vidée de son sens, que ce soit par la forme, avec des expressions aseptisées. Je cite « On vend beaucoup de 119 dans le secteur de Dallas », ils les font en barbecue, ou par le fond, avec des démonstrations absurdes. Là, je pense notamment à cette séquence où un industriel vante les mérites de l'œuf en tube. Et on retrouve le goût de Wiseman pour le grotesque. Donc, nous sommes face à deux groupes distincts qui ne se croisent quasiment jamais. Et même lorsqu'ils se rencontrent, lors de la réunion à la fin du documentaire, une certaine incompréhension, une incommunicabilité persiste. Et donc, ce jeu de dualité n'est évidemment pas purement esthétique. Wiseman accentue ainsi deux rapports au travail très différents et met en lumière la pénibilité des tâches de mise à mort et de découpage du bétail assumées par les classes populaires. Il y a d'ailleurs des effets de parallélisme assez marquants dans la façon de filmer les ouvriers et le bétail. Peut-être avez-vous remarqué que les ouvriers sont à plusieurs reprises eux aussi filmés en plongée. Il n'y a pas d'individualisation, ils sont présentés comme un groupe. Wiseman n'enregistre pas leurs paroles. Et certains choix de cadrage sont assez frappants. Je pense par exemple à cette capture d'écran-là, les lignes de carcasse au milieu desquelles sont plongés les ouvriers rappellent les barrières qui enferment les vaches au début. Et surtout, peut-être vous vous en souvenez, il y a ce plan très intrigant dans un miroir d'un ouvrier qui est en train de dépecer la carcasse d'un mouton, donc qui présente vraiment littéralement le reflet de l'ouvrier et du mouton dans ce miroir. Et je trouve aussi que le choix du noir et blanc, en ne mettant pas l'accent sur le sang des bêtes, fait aussi que les hommes et les carcasses se confondent d'autant plus. Cela donne une apparence presque spectrale aux hommes, au milieu des animaux dépecés. Et ce qui fait que les ouvriers dans Mythe s'apparentent moins à des tortionnaires qu'à des galériens, en corps à corps avec la carcasse des bêtes dans une alliance de souffrance. Et donc, en guise d'épilogue, j'ai eu la possibilité de vous montrer un court-métrage sur lequel je travaille actuellement, dans le cadre de ma thèse dans laquelle je m'intéresse aux questions de la représentation des animaux au cinéma. Et donc c'est une thèse de recherche-création que j'effectue à l'université de Rennes 2 et qui porte plus précisément donc sur le renouveau du cinéma documentaire sur les animaux depuis les années 2000 avec l'essor de films d'auteurs contemplatifs. Et le label recherche-création m'offre la possibilité tout à la fois d'écrire une thèse sur un corpus de films et de réaliser un court-métrage nourri par l'analyse de ces films. Et donc dans PIG, le court-métrage associé à ma thèse, je m'intéresse également aux animaux d'élevage, non pas les vaches ni les moutons, mais les cochons. Et je précise que c'est une approche très différente de Mythe. Un, parce que je serais bien incapable de faire du Frédéric Wiseman. Et deuxièmement, parce que je me place pour ce projet moins du côté des hommes et davantage du côté des animaux. À savoir que je n'ai pas cherché à me plonger dans les conditions d'élevage et d'abattage des porcs, mais que j'ai souhaité plutôt renouveler les percepts et les sensations associées à cet animal en tentant de faire corps avec lui grâce à la technique cinématographique. Et vous verrez, j'ai également travaillé sur le morcellement de l'image, enfin à l'image et au montage, mais là encore, dans une autre perspective, c'est que j'ai imaginé ce film comme un poème, des bribes de sensations au fil des saisons. Et je vous propose de le découvrir et on aura ensuite un moment d'échange.
Merci Alice d'avoir partagé ce travail remarquable. On peut, comme Alice vous invitait, ouvrir aux questions dès maintenant, s'il y en a, qui évidemment peuvent concerner Mythe, mais aussi Pig. Voilà. Ça ne marche jamais du premier coup, donc j'y vais. Stéphane, toi, est-ce que tu veux... Peut-être je me posais la question, il n'y a vraiment pas de malice, je ne crois pas, sur quel serait le sujet de Mythe, du film de Wiseman. C'est, De quoi parle ce film?
Je dirais qu'il y a quelque chose de, à la fois de très général sur, si on parle de façon très générale, donc sur le rapport de, je pense de l'Amérique ou même rapport occidental en fait aux animaux d'élevage dans la modernité. Mais l'angle qui l'apporte, Wiseman, c'est vraiment cette idée de domination qui est, mais du coup il l'a, comment dire, il l'a, ce qui l'intéresse lui c'est aussi plus les hommes, et donc il arrive à la développer en partant de cette domination de l'humain sur l'animal, et il arrive à montrer en quoi en fait, cette exploitation animale, ça permet aussi une domination sur des hommes entre eux dans différentes classes sociales. Je dirais que ça.
Alors, c'est toujours avec Wiseman difficile de savoir, puisque, enfin, disons, on peut voir plein de choses. Il y a des choses, des personnes qui verront un plaidoyer. Pour la souffrance animale, d'autres, au contraire, une indifférence. Enfin, je rebondis aussi sur ce qu'on disait la semaine dernière. Il m'avait semblé voir, peut-être juste pour, avant de cette question du rapport à l'histoire, à une éventuelle allégorie de l'extermination ou de la mise à mort de masse. Est-ce que tu as esquissé quelque chose, que on n'est pas toujours obligé d'écouter les artistes, on peut aussi parler. Est-ce que toi, ta perception de ce film, est-ce qu'il y a pour toi un rapport allégorique, dire plus fort que ce qu'en dit Wiseman?
C'est très ouvert. C'est ça, comme tu disais, en fait, ce qui est intéressant avec les films de Wiseman, c'est qu'il n'y a jamais une lecture extrêmement nette qui est imposée. C'est très ouvert. Mais c'est vrai que lorsque j'ai revu Myth pour préparer cette intervention, j'ai été tout de suite frappée par la typographie. Alors que, même si Wiseman dit qu'il voulait plus s'approcher du côté de la marque au fer rouge des animaux, tout de suite, moi, ça m'a... comme beaucoup d'autres personnes, je pense, quand même fait penser aux croix gammées. Et ensuite, évidemment, du coup, cette typographie, je pense, a orienté mon regard sur ce film que j'ai revu. Et je pense que oui, en fait, je pense notamment à cette séquence où il nettoie l'abattoir avec cette brume. Et je trouve qu'il y avait quelque chose un peu de l'ordre des douches, en fait, que ça m'évoquait ça. Donc je pense qu'il y a quand même une lecture qui peut tout à fait se faire de ce côté-là. Oui,
il y a une chose qui me frappe beaucoup dans ce film, comme assez souvent dans les premiers, lorsqu'ils sont en noir et blanc en particulier, c'est l'attention extraordinaire et le rôle extraordinaire donné à l'image. Alors on a vu la semaine dernière un film qui s'appelle « Missile », dans lequel, pour ainsi dire, je force le trait, mais l'image n'a aucune importance. On est dans des plans télévisuels, la parole circule un peu comme à la télévision, alors qu'ici, notamment la première scène de l'abattage des veaux, qui est si longue et si belle, qui est presque paysagère, avec des découvertes, des perspectives. Bon, il y a une chose qui est importante, c'est que Wiseman prend le son de ses films et change d'opérateur à chaque film. Ah, il y en a au moins une dizaine. Hein. Quatre. Bon. Et celui-ci a fait les premiers aussi.
Surtout celui des années 60-70.
Oui. William Brain, qui est un opérateur magnifique, hein, qui a un 16 mm d'une très grande beauté, il y a un grain absolument sublime. Donc c'est intéressant parce qu'il faudrait faire, alors ça tu peux le faire, moi je ne suis pas en mesure de le faire, mais faire la différence entre les opérateurs, les types de films, Là, c'est un... Alors, bien entendu, Wiseman ne donne pas le détail de tous les plans à faire. Hein. Il ne dit pas « fais-moi le plan de ce détail, de ce seau, de cette brosse ». Ça, c'est l'opérateur qui est un peu dans l'urgence. Wiseman doit en parler, mais l'opérateur a quand même beaucoup de latitude pour faire ses choix. Et ils sont très beaux et je... Bon, je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a des opérateurs qui n'ont pas cette inventivité et je pense que le noir et blanc s'y prête beaucoup. Donc on a un film qui est beaucoup plus visuel que certains, comme ceux du début assez souvent.
Ça s'y prête aussi, hein, c'est vrai qu'il y a les frigos, les brumes, etc., même sans couleur. Je ne sais pas, Elise, toi, tu, par rapport à cette dimension visuelle.
Tout à fait, je pense que, en plus, c'est... d'autant plus assumé que la parole a un rôle moindre que dans beaucoup d'autres, que dans beaucoup d'autres de ces films. Et donc, cette attention-là est portée d'autant plus sur l'image qui va prendre le relais presque de la parole, en tout cas prendre une place beaucoup plus affirmée, tout à fait.
Et la première parole ou usage de la parole dans le film, c'est... Cet borborygme incroyable à la bourse, à la viande, enfin, c'est ce que je comprends. Donc ce n'est même pas une parole intelligible, c'est une
tout
sorte de pré-langage ou de langage après le langage. Mais c'est
ça,
assez,
et qui est
génial.
Même repris lorsque il y a ces employés qui viennent diriger les vaches et qui, là, pareil, s'expriment par onomatopée. Donc c'est vrai que même quand on a la parole, elle est quasi inintelligible. À plusieurs reprises.
Oui, moi je voulais revenir sur le petit court-métrage, donc Pig. Je trouvais très très intéressant et très intéressant de le voir après Meet. Et je voulais savoir s'il l'a vu, Wiseman, et ce qu'il en a pensé.
Alors, pas encore. Bientôt, j'espère. Il n'a pas pu être là parmi nous d'ailleurs ce soir pour des questions de santé et il m'a accompagnée surtout au début pour l'instant avant de voir le film donc c'est en me posant des questions pour chercher vraiment ce que je voulais faire. Donc vous savez, Wiseman, il a été professeur lui-même, alors pas de cinéma, de droit quand il était plus jeune, mais le professorat, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Tant mieux pour nous, puisqu'il s'est lancé dans cette carrière de cinéaste. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va être très directif. Mais par contre, là où j'ai eu énormément de chance, c'est que c'est quelqu'un d'incroyablement curieux et donc qui va poser beaucoup de questions et qui, du coup, je pense, a travaillé, qui a eu un effet de maïeutique, un petit peu d'accouchement de ce que je voulais faire du projet, mais il n'a pas encore vu. Voilà.
Bonjour. J'avais une remarque par rapport à la question d'Arnaud. Moi, ce qui me fascine le plus dans le cinéma de Wiseman, c'est son illisibilité politique et morale, si je puis dire, qu'il a beaucoup affirmé. C'est vraiment ce qui me fascine, d'autant plus quand on est sur des films à haute charge morale, potentiellement, comme celui-là. Et j'aurais beaucoup de mal à l'aborder à travers... l'idée de domination, par exemple, mais si j'essaye de répondre à la question d'Arnaud, ce qui me frappe dans ce film, ce serait plutôt le concept de médiation. J'ai l'impression que c'est un film sur la médiation. Évidemment, tout peut être médiation, mais là, on a quand même la prise de conscience de ce qu'implique concrètement de manger un steak haché, par exemple. Avec en plus la médiation des médiations qui est le langage qui disparaît, comme vous l'avez très bien dit, en insistant sur le fait que, d'abord, on peut difficilement parler aux animaux, et là, ils n'essayent même pas, contrairement à Zou, par exemple, où il est frappant de voir que dans le langage articulé, les hommes essayent d'entrer en contact avec les animaux. Là, il n'en est pas question, ce n'est pas le même contexte, mais les hommes ne parlent pas non plus entre eux dans ce processus industriel. Ce que ça m'évoque aussi, et là j'aurais bien aimé entendre peut-être Stéphane Breton là-dessus, c'est dans le cadre d'une réflexion sur l'institution, dans quelle mesure est-ce que ce film peut offrir un éclairage intéressant, puisque enfermer la vitalité des animaux dans un enclos, c'est peut-être comme ça que commence l'institution. Si on essaye de penser à des proto-institutions, l'importance des aires de battage, ensuite on passe des aires de battage du grain aux aires d'abattage, comme c'est le cas ici, et il y a sans doute une réflexion peut-être anthropologique à mener autour de la question de l'institution par Mythe.
Merci. Je pense que l'institution précède de beaucoup la domestication, hein. Et la domestication n'est possible que parce qu'il y a une institution sociale. Sinon, on en serait bien incapable. Hein. Il faut une coopération, il faut une entente. Donc, je pense que l'institution précède la domestication. Bon, ça c'est mon avis, mais c'est spéculatif.
Bonjour. Vous parliez beaucoup du rapport entre travailleurs et animaux d'abattoir. J'avais l'impression aussi qu'il y avait un rapport entre le public et l'animal qui était exécuté, dans le sens où la différence entre, pour moi, entre les animaux et les travailleurs, c'est que les travailleurs connaissent les étapes de production, là où le spectateur les connaît assez mal et assez peu conscient en fait, de ce qui va se passer. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas moi, en regardant le film, de ne pas trop savoir où on essayait de nous emmener. Notamment la scène par exemple où un mouton se fait tondre, on ne sait pas trop s'il va se faire tuer, s'il va juste se faire tondre et pas, peut-être pas y passer cette fois-ci ou s'il y a y passer après, et c'est ce qui se passe. Et je trouvais, je voulais savoir s'il y avait d'autres plans ou d'autres stratégies pour faire un parallèle entre le spectateur et l'animal qui en fait ne sait pas comment on va le mener et où on va le mener.
Vous voulez dire un parallèle direct entre le spectateur et l'animal sur cette Je dirais pas forcément de parallèle direct. Je pense qu'on sent, enfin, que les animaux sentent plus ou moins ce qui se passe. On le sent avec leur panique. On voit des animaux qui sortent du champ, qui essaye de se détourner, d'éviter d'entrer dans l'abattoir. Je pense qu'eux savent ce qui se passe. Par contre, je pense que oui, il vient jouer avec le spectateur dans le sens où il ne va pas lui montrer, même si c'est très divisé, qu'on a cette insistance sur le travail à la chaîne, sur les étapes qui se succèdent, on n'a pas non plus une structure extrêmement claire. On ne va pas avoir quelque chose de didactique, si vous voulez. Ce n'est pas ce que cherche Wiseman, dans le sens où, par exemple, on va avoir 5 étapes très, très différentes qui se succèdent. Là, je pense que cette perte de repère, ça crée quelque chose de moins didactique, mais du coup de plus physique, pour le spectateur aussi, qui est plongé vraiment sensoriellement qui fait une expérience sensorielle de l'univers de l'abattoir plutôt qu'une expérience intellectuelle. Et donc peut-être que c'est ça que vous avez ressenti.
Oui, je pense que c'est sensoriel dans le sens où en tant que spectateur, on ne sait pas trop si on doit être dans l'appréhension, dans le soulagement à certains moments. Et ça crée un lien avec l'animal, je trouve.
Oui. Et puis cette idée de boucle lorsque les moutons reviennent, je pense que là aussi on joue presque avec les nerfs du spectateur, on se dit oh, allez, on va replonger dedans, et donc on joue, je pense, aussi avec les nerfs là-dessus. Oui,
c'est exactement ce que fait Franju dans Le Sang des Bêtes, c'est-à-dire qu'il y a, bon, il n'y a pas les chevaux puisque le Sang des Bêtes commence aux abattoirs équins de Vaugirard, une scène très dure, et ensuite à la Villette, il y a les bovins et les ovins. Alors je ne sais pas si Wiseman se réfère au Sang des Bêtes en faisant cette sorte de reprise via les moutons. Je me posais la question, pour rester peut-être sur cette question de nous et eux, nous et les animaux, nous spectateurs et les animaux représentés. Ce qui est très frappant, et puis ce qui te permettra, je pense, de parler aussi de ton film, c'est sur la question de bon, il y a une grande question des animaux au cinéma qui est l'anthropomorphisme. Wiseman on fait une sorte de refus. Enfin, moi, je n'en perçois pas du tout dans le film. Donc, toi, comment tu perçois cette relation spectateur-animaux dans Mythe, et puis aussi toi, ce que ça me semble fondamental dans la façon dont tu as travaillé dans ton film, comment tu as travaillé cette question de l'anthropomorphisme, ou plutôt du non-anthropomorphisme dans ton film.
Oui, merci pour cette question. Alors, en effet, je pense aussi que Wiseman refuse tout à fait l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de projeter des qualités humaines sur les animaux. Et de mon côté, j'ai suivi la même piste. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de contourner. Par contre, le refus de l'anthropomorphisme n'empêche pas l'empathie. Et donc, c'est ce qu'on disait un petit peu, vous savez, lorsque les vaches vont se faire tuer, il y a ce plan qui est assez marquant, alors qu'elles ont toujours été présentées comme une masse, là on vient les singulariser, et on voit leur tête et leurs yeux un peu exorbités, et tout de suite je pense que ça crée une forme d'empathie. Et cette idée d'empathie, je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé aussi de développer dans Pig, enfin dans le court-métrage, avec cette proximité physique. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de me mettre pile à la place du porc, enfin j'ai pas essayé de voir comme le porc, mais j'ai essayé de créer une sorte de proximité sensorielle et physique qui travaille l'empathie, enfin, c'est-à-dire que l'esthétique est aussi empathique.
Merci. Bien sûr, je pense que c'est un très grand film sur les animaux, mais ce qui m'a frappé, je crois que c'est aussi un très grand film sur les ouvriers. Et on les voit à la chaîne, comment ils travaillent, comment ils font bien leur boulot, sérieusement, et ils le font tous les jours. Et moi, j'ai pas de comparer les animaux, la mort des animaux et le travail des ouvriers, mais ça m'a littéralement aussi horrifié. J'ai pensé au temps moderne aussi. Et un des détails qui m'a... Ce qui est bien, c'est qu'avec Wiseman, il ne les critique pas, puis personne ne peut les critiquer. Pas non plus les admirer. Moi, j'ai été horrifié de me dire, mais comment peut-on faire ça tous les jours, toute sa vie? Et un détail qui m'a le plus horrifié, c'est que la plupart d'entre eux travaillent à main nue. Et ça, je ne peux pas le comprendre. Et donc, il y a ce côté-là aussi qui m'a vraiment impressionné dans le film. Merci.
Il y avait une Stéphane derrière toi. Je respecte l'ordre.
Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à Pig. Je me disais, par rapport au sujet du film, en fait, je me demandais pourquoi avoir choisi un porc élevé en plein air, justement, par exemple en Bretagne. Il y a une énorme industrie porcine, et il y a les plus grands abattoirs porcins de France, possiblement d'Europe. Et donc, oui, donc je me posais la question de ce choix du porc en plein air, et pourquoi. Est-ce que c'est par rapport justement à la poésie dont vous parliez juste avant? Oui, je me posais cette question.
Oui, alors, en effet, j'ai choisi le porc, c'est très lié à la Bretagne, donc moi j'habite en Bretagne, et comme vous dites, le porc, c'est un animal très associé à cette région, et il y a deux fois plus de porcs que d'humains en Bretagne. Et oui, vous le saurez. Et ce qui m'a, lorsque j'ai découvert ce chiffre, j'ai été assez frappée parce que, en fait, les porcs, à la différence peut-être des vaches ou des moutons qu'on peut voir sur les bords de route, sont essentiellement élevés dans des complexes fermés, intensifs, industriels. Donc, ils n'appartiennent pas du tout à nos paysages. Ils sont très nombreux et en même temps absents. Donc j'avais envie de travailler sur cette question du porc, et ensuite s'est posée la question de où filmer. Donc soit j'allais filmer dans ces abattoirs industriels qui représentent 95% de l'exploitation porcine, soit j'allais filmer en plein air. Et en fait, les abattages industriels, ça allait au-delà des complications de droit, parce que moi j'avais besoin d'une carte blanche, de pouvoir y aller un peu en continu pour faire des tests, comme la recherche-création, c'est pas un tournage classique, il y a vraiment cette idée de, en permanence, aller tester des choses. Bon, au-delà des histoires de droit, les abattoirs traditionnels appelaient des images type L214, qui sont très importantes, mais qui sont différentes de celles que j'étudie dans mon corpus, c'est-à-dire des images contemplatives, très sensorielles. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de filmer en plein air, mais j'ai filmé, ça reste une ferme qui est liée au complexe agroalimentaire. Donc le porc qu'on voit à la fin, de toute façon, il va être transformé en produit de consommation. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais après, je pense, on parlait d'éthique, et je pense qu'on pourrait aussi, une des thématiques qui me questionne, c'est la question politique. Et je trouve, en tout cas, je pense que filmer un porc en plein air, ça peut aussi être politique. Alors, pas dans le sens où on va dénoncer, comme peuvent le faire les images L214, mais politique dans le sens où ça rentre dans une démarche de renouveler, de réinventer les percepts associés à ces animaux pour qu'ils existent aussi plus forts dans nos paysages mentaux, et donc plus forts aussi dans nos questionnements.
Merci. Je voudrais d'abord faire part un petit peu de mon sentiment par rapport au film de Wiseman, où effectivement, je trouve qu'il parle beaucoup des hommes, comme disait le monsieur, à main nue, sans masque, dans une atmosphère qu'on imagine irrespirable, et corps à corps. Vraiment, c'est le corps à corps qui m'a frappé de ces ouvriers, contrastant complètement avec les stratégies complètement absurde et ubuesque des cols blancs loin du front, quoi, je dirais. Et c'est cette guerre, presque une bataille. Bon, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Bon, il y a d'autres choses qui m'ont frappé, mais après j'ai une question. C'est une scène que j'ai trouvée étonnante d'un bouc, je crois que c'est un bouc, qui mène à l'abattoir les moutons. Et là, j'aimerais avoir une explication, si vous en avez une, si vous avez, parce que je n'ai pas, enfin, c'est très très fort. Ça m'a vraiment frappé énormément, cette espèce de, je sais pas, collaborateur, ou je sais pas, qui mène ce troupeau de moutons à l'abattoir. Est-ce que c'est une technique classique dans les abattoirs pour amener les moutons se faire tuer? Je ne sais pas.
Alors, j'avoue que je ne sais pas. Ah non, c'est bon. J'avoue que je ne sais pas, et je pense que le film ne cherche pas, enfin, dans ces films, comme on disait, ce ne sont pas des films didactiques, donc il ne va jamais donner d'explication. Je me demande même si lui est allé chercher l'explication. Mais il n'empêche que s'il a sélectionné cette scène, ce n'est pas pour rien, ça crée... je pense, une sorte de gêne, et peut-être ça augmente l'empathie pour ces moutons qui sont d'autant plus piégés à la fois par les hommes et à la fois par leurs congénères. Peut-être.
Oui, oui, c'est classique. Oui, oui. Tous les ovins dans les abattoirs sont menés par des chèvres. Et ça les calme d'ailleurs, on le voit bien. C'est les capots des Under Commando.
Peut-être pour revenir sur ta recherche, sur cette question du point de vue, tu as parlé que tu n'avais pas, on va dire, pour aller très très vite et à gros traits. Il y a eu autour des années 2010, je dirais, avant, un peu après, dans le cinéma documentaire, tout un tas de recherches, de tentatives qui disaient qu'ils travaillaient un point de vue non humain et le point de vue animal. Alors, ça a beaucoup passé par Lucien Castin-Taylor, le Senso.
Sensory
Ethnography Lab de Harvard, un film comme Léviathan, etc. Enfin voilà, comment toi tu perçois cette. Toi, tu parles d'empathie, je pense que c'est ton approche, qui passe pas par d'essayer d'inventer un point de vue non humain. Enfin voilà, comment est-ce que tu perçois cette question? Est-ce que le cinéma pourrait avoir un point de vue non humain? Et puis aussi,
Merci. Alors, c'est vrai que cette question a été partagée par beaucoup de cinéastes récemment. Ça fait partie des. Les films du Sensory Ethnography Lab, ça fait partie des films que j'étudie dans ma thèse. Et alors. Les cinéastes du Sensory Ethnography Lab eux-mêmes ont un petit peu évolué dans leur discours. Au début, avec un film comme Léviathan, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Léviathan, c'est un documentaire expérimental qui a été tourné avec une dizaine de GoPro sur un chalutier de pêche intensive au large des côtes des États-Unis. Donc des GoPro qui ont été fixés à la fois dans les filets de pêche, sur les corps des marins, au bout de bateaux. Et donc qui crée cette sorte de magma visuel et sonore où tout s'en mêle et où on n'est plus du tout dans un point de vue unique. Et au début, dans des interviews, dans les premières interviews qu'ils ont données, ils ont pu dire que de cette façon, ils épousaient le point de vue des poissons ou le point de vue de l'océan. Et dans les interviews plus récentes, ils ont évolué dans leur discours. Et ce qui les intéresse, c'est peut-être moins d'épouser un point de vue d'un non-humain en particulier, parce que c'est très difficile finalement d'épouser le point de vue d'un poisson ou d'un oiseau. On ne regardera jamais comme un poisson ou un oiseau, on regarde comme la caméra. Mais par contre, je pense que ce qui les intéresse, c'est le décentrement de la figure humaine. C'est comment présenter un monde où l'homme n'est plus au centre. Vous voyez, ces réflexions qu'il y a actuellement en philosophie, je pense, par exemple avec Baptiste Morisot, Vinciane Després, où on réfléchit à un monde où on décentrerait l'humain, ces cinéastes, ils réfléchissent à comment faire sentir sensoriellement, comment créer des propositions esthétiques qui viennent décaler justement le point de vue. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe à l'image, où on a des hommes qui sont cadrés peut-être juste à ras du sol, ça se passe au son, avec des paroles qui sont incompréhensibles parce que complètement mêlées avec les autres sons du monde, que ce soit le bruit des vagues, le cri des mouettes, etc. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement essayé de développer dans Pig, avec cette arrivée très tardive de l'humain sur son tracteur, qu'on voit d'ailleurs pas du tout, qui reste hors champ. Et d'ailleurs, au niveau des sons, là, c'est un tout nouveau montage sonore, c'est une V2. On n'a pas encore fait le mixage et l'étalonnage. Mais dans le premier montage sonore, j'avais gardé les sons les sons que j'avais captés sur place, où on entendait en fait pas mal de sons humains, c'est-à-dire des sons de voitures qui passaient pas loin, des sons de conversation. Et avec Antoine Barguin, qui a fait le montage son, on s'est dit qu'on allait tout enlever, mis à part quelques-uns, c'est-à-dire quand ils croquent les pommes, pour tout rebruiter, comme en animation, afin que toute la piste sonore jusqu'à l'arrivée des hommes soit complètement dénuée de toute trace humaine. Ce qui fait que quand l'homme arrive, c'est extrêmement troublant, ça empêche aussi toute identification, ça devient une présence très gênante, comme une bête étrange un peu.
C'est vrai qu'on reconnaît par contre, en tout cas dans le choix de cadrage dans ton film, cette question du décentrement et effectivement peut-être de regarder et de nous faire regarder un cochon comme on ne l'a jamais regardé. personnellement, je ne me fixe pas au ras du sol à contempler un cochon. Ce n'est pas encore arrivé, peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, voilà, cette recherche, non pas d'un point de vue non humain, mais d'un point de vue singulier, unique, voilà,
et qui crée,
décentré.
Tout à fait. Et qui crée, j'espère, une défamiliarisation en renouvelant les percepts. Et vous voyez, quand j'ai cadré à ras du sol, ça, je m'en suis rendu compte, en fait, en revoyant les images, j'ai eu la sensation que cet animal rappelait quelque chose de minéral, comme une pierre au sol. Et ça m'a rappelé aussi des réflexions de Jean Epstein, qui dit que le cinéma, alors lui, il parlait notamment de l'accéléré et du ralenti, mais que le cinéma nous permet ça aussi, de créer un trouble dans les règnes et du coup de sortir des catégories dans lesquelles on range le vivant.
On peut soit, enfin, est-ce qu'il y aurait une dernière intervention? Je pense qu'on a quand même le temps. Stéphane, là.
Merci. Et c'est juste un livre, 1987, de Noélie Vial. Je ne sais pas si vous connaissez le titre, Le sang et la chair. Et c'est sûr, c'est une enquête ethnographique, un très beau livre sur les abattoirs du Pays de la Dour, où on voit à travers le livre toute cette chaîne d'abattage. Et la question, c'est comment la mort n'existe pas, c'est-à-dire personne ne tue l'animal, parce qu'il y a l'anesthésisation d'abord, comme on a vu pour les moutons, parce que bon, je suis arrivée en retard. Et on anesthésie, et puis tu as une masse anesthésiée, inconsciente, et il y a le pistolet, enfin je sais pas, il y a le couteau peut-être, mais là il n'y a rien à tuer. Donc c'est une innocence dans l'acte de prendre la vie des animaux. Non, c'est un livre, vraiment très crucial pour une bibliographie sur l'abattage. Et donc, ce que j'ai réfléchi en regardant les deux films et le demi-siècle qui les sépare, et c'est la problématique du travail de l'époque. Encore à l'époque, il y avait des utopies, c'était la guerre froide. Et là, dans votre film, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était pas, non seulement pas noir sur blanc, c'était blanc sur blanc. Et c'était l'individuation, c'est un individu, le porc là, c'était un seul. Donc c'est toute cette problématique, relations animaux et crise climatique, etc., etc., et toute la problématique de Philippe Descola, si on ne voyait pas, s'il n'y avait pas cette division entre sujet-objet. Et donc je crois que vous l'avez démontré avec beaucoup de succès, ça. Et merci.
Oh, merci.